Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Bienvenue chez les fous en cette semaine de Radio Don. Il est utile de se rendre compte à nouveau que notre radio, votre radio, est un projet fou partagé à tous, la foi en Dieu fait homme. Folie pour les païens, scandale pour les juifs et pour les musulmans, pourrait-on ajouter. Un scandale qui demeure quand les deux tiers des Français se déclarent athées convaincus ou non religieux. Un projet fou et beaucoup de doudingues à l'antenne, comme notre invité de ce matin, un agriculteur embrasé par Dieu, un homme de terrain qui depuis n'a de cesse de parcourir la petite Palestine qui est son pays pour dire haut et fort que Dieu est vivant. Tout proche. Faire de Jésus son ami, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Ravi d'un tel thème en cette semaine de Radio Don. Nous a rejoint donc, ayant bravé toutes les difficultés, Bernard Guidès. Vous êtes agriculteur dans le Tarn, ancien responsable syndical et dans une coopérative agricole. Et donc vous êtes l'auteur d'un livre, Fais de Jésus ton ami. J'ai repris le titre de votre livre, comme souvent pour le titre de l'émission, paru aux éditions Mediapole. Bonjour.
Bonjour.
Voilà. Merci de tous vos efforts pour nous rejoindre. On est bien content de vous avoir et c'est très bien. En cette semaine de Radio Don, ça montre que la radio, ce n'est pas une science forcément exacte. Avant de se lancer dans votre livre, un petit mot à propos de la radio en général ou des radios chrétiennes, puisque mon petit doigt m'a dit que vous étiez depuis quelque temps président aussi d'une radio chrétienienne amie et voisine avec qui maintenant on travaille, particulièrement dans le 18-19, RCF Pays Tarn. Pourquoi c'est important pour vous cette mission des radios chrétiennes? Pourquoi, dans le fond, vous avez accepté cette invitation de votre évêque à prendre la présidence de cette radio?
Alors, c'était d'abord bonjour. C'était pour moi une surprise que mon évêque me propose ça, parce que je n'étais même pas dans le conseil d'administration. Je connaissais la radio, bien sûr. Je faisais des petits reportages sur la paroisse de Lavaur. Et puis, quand Monseigneur Legré m'a proposé cette présidence, j'ai fortement hésité. Mais vous savez, régulièrement dans mes prières, moi j'ai dit à Jésus, écoute, voilà, je veux te servir, je ne sais pas comment, c'est toi qui sais, mais si tu as des propositions à me faire, moi j'assumerai derrière. Et là je me suis dit, oulala, ça c'est un signe de réponse à ma prière. Donc j'ai rencontré le président, l'ancien président.
Mais c'est une mission importante,
c'est
vous pensez aujourd'hui?
C'est une mission d'église.
Pourquoi est-ce que c'est une mission particulièrement importante aujourd'hui, tous ces médias?
Parce que d'abord, cette radio diffuse la parole, déjà. Hein, donc Jésus, comment il fait pour parler aux gens? Il ne peut parler que par l'intermédiaire des hommes. Voilà, c'est pas bien sûr, il parle de cœur à cœur, mais de voix à voix aussi, de voix à oreille, de bouche à oreille. Donc c'est important d'avoir cette... Voilà, je considère que c'est vraiment une mission d'église, parce qu'il y a des émissions de réflexion d'abord, des émissions de sens, parce qu'on se rend compte que quand même 50% de nos auditeurs ne sont pas pratiquants, ou ne sont même certains se disent non-croyants.
Ce sont des chercheurs de sens,
de sens. Nous avons des débats posés déjà, et puis c'est aussi pédagogique, il y a des émissions qui enseignent carrément, non seulement la parole, mais aussi c'est une vraie catéchèse. Et les gens sont en recherche de ça, donc participer à une équipe. Moi, j'aime pas trop le mot de président parce que c'est pas le bon mot. Je préside pas, j'anime.
Je mets une équipe.
Je mets de l'huile dans les rouages. On fait en sorte que tout fonctionne, quoi.
Alors, il y a une autre équipe que vous avez rejointe. C'est la grande équipe. Je dis ça sans trivialité de Jésus. Immense équipe, hein, plus d'un milliard de personnes à travers le monde qui l'ont rejoint plus ou moins consciemment. En tout cas, vous l'avez rejoint bien consciemment. On va dans cette première partie essayer de voir un petit peu qui vous êtes, parce que c'est toujours absolument splendide de voir comment tout d'un coup la grâce illumine une vie et la transforme, même si vous ça s'est fait de manière progressive. Et puis après on découvrira au long de cette émission, dans ce livre Fais de Jésus ton ami, livre que vous avez écrit, la petite méthode simple que vous proposez, où on prend les 5 doigts de la main et on fait de Jésus ton ami.
Voilà, un mot pour chaque
doigt, ce qui est une manière aussi
sans oublier la paume de la main.
Voilà, à se lancer dans la prière d'oraison, bref, dans cette prière de cœur à cœur qui est souvent un pas capital, on va dire, dans la vie chrétienne. Alors, Bernard Guidès, on a moins de temps que prévu, donc il va falloir faire plus court qu'imaginer, et vous parlez, comme je vous disais sympathiquement, d'abondance de cœur, et c'est une grande qualité. Sur vos origines, on va dire, on va passer, vous êtes d'une famille chrétienne, dites-vous dans votre livre, votre épouse est une femme qui a la foi. J'aimerais surtout qu'on parle de votre métier. Donc vous êtes agriculteur. Et alors dans votre...
J'étais agriculteur, vous étiez... je ne suis plus agriculteur.
Voilà, même si vous dites qu'on reste un peu agriculteur toute sa vie. Quand même,
pas un peu, on reste complètement agriculteur jusqu'à la fin de sa vie. Agriculteur ne vieillit pas, il meurt. Il meurt agriculteur.
Vous ne parlez pas beaucoup de, entre guillemets, de votre métier directement, mais des responsabilités que vous avez rapidement prises. Je pense que c'est intéressant parce que ça dit quelque chose de votre tempérament aussi de fonceur. Parlez-nous du combat qui a été le vôtre et des responsabilités que vous avez été prises. Vous avez fait partie un peu des, on va dire, des pionniers, des éclaireurs quant à l'agriculture française.
Oui, un peu, oui. Alors, comme un chrétien ne peut pas être chrétien seul, il est en église, eh bien, un agriculteur ne peut pas être un agriculteur seul. Ce n'est pas possible. Il peut, mais en fait, il perd beaucoup de son potentiel. Et je me suis aperçu que mon exploitation dépendait de l'environnement économique qui était autour d'elle. Voilà, donc, mon exploitation travaillait beaucoup avec la coopérative à qui j'achetais, je vendais, etc. Et donc, j'ai voulu m'engager. La seule responsabilité que j'ai eue dans ma vie et que j'ai demandé, que j'ai voulu avoir, c'était d'être responsable de ma coopérative. Trois agriculteurs partaient à la retraite, j'ai été candidat et je me suis retrouvé donc très vite. J'ai un peu contesté le président, mais quelqu'un que j'admirais d'ailleurs, et il m'a dit, écoute, puisque tu veux savoir comment on travaille, je te mets la main dans le camp. Oui, il m'a confié, dès la première année, la responsabilité des investissements de la coopérative, ce qui était énorme. Et 2 ans après, des productions animales. Donc je me suis retrouvé très vite dans les mains dans le camp. Oui, c'est vrai que j'ai eu une vie d'engagement, mais c'est comme ça.
Alors, parlez-nous un peu de...
On n'y peut rien, on a les yeux bleus, on a les yeux verts.
Parlez-nous un peu du FAR. Donc, le FAR, c'est le Forum de l'agriculture raisonnée et respectueuse de l'environnement. Donc, vous avez été engagé dans ce forum. Quel était son combat?
Alors, on m'a demandé d'aller dans le syndicalisme. J'ai refusé dans un premier temps, j'ai accepté dans un deuxième temps. Et dans le syndicalisme, ça m'a ouvert à si vous voulez, une dimension sociétale beaucoup plus large. Et j'ai découvert une petite association qui démarrait juste et qui s'appelait Forum de l'agriculture raisonnée respectueuse de l'environnement. En 96, pas grand monde ne parlait d'environnement à ce moment-là, et encore moins dans le monde agricole. Et moi je me suis dit, l'environnement c'est incontournable, nous sommes des acteurs de l'environnement, nous sommes acteurs et voilà. Et donc on a un rôle important, non seulement à prendre conscience, mais en même temps expliquer ce que nous faisons. Et quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, je crois que nous avions raison. Donc j'étais extrêmement marginalisé dans le monde agricole, j'étais très minoritaire, je fais partie d'un groupe très minoritaire au sein de la FNSEA. Et donc on a voulu ouvrir nos exploitations à des associations de consommateurs, d'environnementalistes, des journalistes, public lambda, et également des agriculteurs, en leur disant, vous voyez, on peut modifier, on peut changer notre comportement et faire des choses beaucoup mieux en essayant, chaque fois qu'on pose un acte technique, quelle est la conséquence sur l'environnement. Voilà, et donc, attention à la qualité de l'air, à la qualité de l'eau, à la qualité des produits, etc. Et comment on fait pour utiliser... Moi, je ne me suis jamais interdit la chimie. J'ai failli passer en bio en 1974, puis j'ai vu que c'était un peu compliqué. Mais je ne me suis jamais interdit la chimie. Par contre, j'ai tout fait pour la limiter au maximum. Et je me suis beaucoup intéressé aussi à l'agronomie pour essayer de réduire l'énergie, réduire l'érosion et faire travailler les vers de terre le plus possible pour que moi, j'ai le moins de temps, j'ai le moins à travailler possible. Voilà. Alors, c'était grosso modo, c'était ça mon combat de l'agriculture, en disant, voilà, il faut que nous sommes des acteurs, il faut que nous prenions nos responsabilités.
Alors, cet engagement, vous avez écrit un premier livre, Paysan, un nouvel avenir, c'était en 1999, et vous racontez, vous racontez dans votre livre que ça vous a valu donc quand même un certain nombre de difficultés d'être un peu pionnier, et qu'à un moment, alors je vais vite pour vous évidemment, pour parler de votre vie, mais cette façon...
Mais c'est pas ma vie qui a un intérêt dans ce livre.
Est-ce que ça tienne ? Oui, mais quand même, c'est important. Là, vous avez traversé une période difficile, vous dites vous-même, vous avez traversé une période de déprime, et vous avez fait une promesse. Racontez-nous la promesse que vous avez faite et la manière surtout derrière dont vous l'avez honoré, puisque c'est comme ça quelque part que vous êtes un peu rentré dans la grande famille du Carmel.
Voilà.
Qui va introduire notre sujet.
Ça arrive à tout le monde, si vous voulez, quand vous êtes un peu secoué par vos idées, quand vous êtes que vous êtes très actif, très très bon. À un moment donné, la fatigue, les pépins, les contrariétés, enfin tout un tas de choses. À un moment donné, ben, le livre, j'avais fait le livre, ça m'avait pris beaucoup de temps. Puis tout d'un coup, après, il y a le vide, quoi. Et donc, je me suis pris une déprime, comme ça arrive à beaucoup. Médecins, psychiatres et compagnie. Et puis, j'arrivais pas à m'en sortir. Et au bout de sept... Donc, j'avais la foi. Alors, il faut dire qu'entre-temps, enfin, on y reviendra peut-être, mais j'avais été dans un foyer de charité où j'avais une conversion à l'âge de 47 ans. Et là, j'en avais pratiquement 50, quoi, 50-51, de quelques temps après. J'avais découvert déjà Thérèse d'Avila, avec qui j'avais déjà fait mon ami. Et j'arrive pas à m'en sortir. Et un jour, dans une demi-colère, je sais pas, vous savez, le coup de talon au fond de la piscine pour remonter, quoi. Hein, j'ai dit à Thérèse, écoute, je vois que je m'en sors pas. Je peux pas rester comme ça, je peux pas continuer comme ça. Il faut que je m'en sorte. Il y en a qu'une qui peut me sortir de là, c'est toi. Et si tu me sors de là, je te promets, je viens à Avila en vélo. Ça, c'est une promesse un peu folle que je n'ai jamais tenue.
Mais alors, vous l'avez tenue autrement.
Voilà.
Puisque, donc, alors, il y a eu cette retraite qui a été importante. Ça a été comme une conversion. On sent que vous étiez,
charité, voilà.
Là, vous étiez un chrétien moyennement pratiquant. Et puis là, tac, il y a quelque chose qui a commencé à vous saisir. Et puis, un peu plus tard, vous avez fait une école d'oraison. Et puis, de fil en aiguille,
alors,
vous êtes
rentré. Alors, bien avant, quand même. Parce que je tiens à revenir un peu sur la partie foyer de charité. Parce que c'est absolument déterminant. Et c'est ce qui est le plus déterminant de tout. Quand j'étais à faire cette retraite, d'abord, moi j'étais donc croyant, mais pas très pratiquant. J'allais à la messe 4 ou 5 fois par an, pas plus. Ma femme y allait régulièrement. Bon, elle essayait de m'entraîner. Et elle me dit un jour, je vais faire une retraite dans un foyer de charité. Je ne savais pas ce que c'était. J'avais entendu parler de Marthe Robin vaguement. Et puis je crois que c'est elle qui m'a attiré. Donc je vais dans ce foyer de charité. Pour moi, ça a été vraiment une conversion complète. Voilà. Si je peux résumer à l'extrême, on m'a dit ce jour-là, Dieu t'aime comme tu es là où tu es. On me l'avait dit ailleurs, mais je ne l'avais pas entendu. Voilà, c'est ça la différence. C'est qu'à un moment donné, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend à moi et vient m'ouvrir, j'entrerai chez lui, prendre mon repas, lui avec moi, moi avec lui. Jésus est devant la porte en permanence. Il frappe devant votre porte. Vous ouvrez ou vous ouvrez pas? Et moi, j'avais pas ouvert. Ben, ce jour-là, j'ai ouvert. Et donc, je suis allé dans ce foyer de charité. Et là, j'ai découvert la parole de Dieu. J'ai découvert la parole de Jésus.
Vous dites que la lumière est rentrée aussi.
La lumière est rentrée. Voilà. Et là, à ce moment-là, la lumière est rentrée. C'est-à-dire que j'ai perdu mes écailles d'aveugle, quoi, si vous voulez. Et j'ai découvert aussi les saints. Enfin, parce que quand j'y suis allé fin août, le 20 août, c'est la Saint-Bernard, le Père, le matin, avant l'Eucharistie, donne 2-3 mots sur le saint du jour. C'était Saint-Bernard. Et donc, j'ai découvert Saint-Bernard. Et cette vie de saint m'a intéressé. Du coup, dans la collection Prier 15 jours avec, j'étais Catherine de Sienne, Saint-François, Thérèse d'Avila. Et là, Thérèse d'Avila, ça a été vraiment l'ouragan qui m'a emporté. Je me suis pris d'amour et d'amitié pour cette sainte, et que j'ai découvert, que j'ai lu. Et à ce moment-là, elle m'a accompagné dans mon parcours en même temps que l'Évangile, si vous voulez. J'ai eu vraiment les deux choses qui m'ont tenu, les propos de Thérèse et l'Évangile. Et ce sont les deux à la fois, vraiment les deux à la fois.
Alors, on va faire une première pause musicale. Donc, je dis qu'aussi, donc, vous avez fait une école d'oraison et puis vous êtes rentré dans la famille école d'oraison, dans la famille des Carmes, donc l'ordre des Carmes des Chaux séculiers. C'est la branche, on va dire, pour les laïcs. Et du coup, vous êtes lancé dans la prière, tant et si bien que derrière, vous avez animé des écoles de prière et puis vous avez écrit ce petit livre. On va le parcourir et du coup, on reviendra sur certains éléments de votre conversion, de votre chemin de foi, entre autres, cette grande amitié avec Thérèse de Jésus, étonnante amitié avec Thérèse d'Avila. Je rappelle le titre de votre livre, « Fais de Jésus ton ami » paru aux éditions Médiapôle.
Oh.
Emmanuel Pella.
Fais de Jésus ton ami, c'est le thème de l'émission Vivante Église de ce jour. Nous sommes ce matin avec Bernard Guidès, je rappelle, agriculteur dans le Tarn et auteur donc d'un ouvrage intitulé « Fais de Jésus ton ami », voilà, même titre, paru aux éditions Mediapol. On a fait connaissance un petit peu avec vous donc au début de cette émission, rapidement parce que compte tenu du retard, on avait moins de temps. Donc c'est, voilà, c'est toujours délicat d'évoquer une vie à marche forcée comme ça un petit peu quand c'est, toute vie est un grand mystère, surtout une vie avec Dieu. Ce que je vous propose, c'est qu'on va se lancer dans votre livre et cette pédagogie que vous proposez pour rentrer dans la prière et rentrer dans cette amitié avec Dieu. Et puis au long de ce parcours, on verra d'autres éléments de votre vie. Alors, la petite méthode que vous proposez, je rappelle, donc, on prend les doigts de sa main et sur chaque doigt, il y a un mot et on va dire un axe. Alors, décrivez-nous la méthode avant qu'on se plonge qu'on aborde le premier doigt qui le pousse.
Alors, je dois dire quand même qu'on m'a demandé un jour, résume-moi la spiritualité de Thérèse d'Avila. Et c'est comme ça que c'est venu. C'est venu tout à fait spontanément, après 20 ans ou 22 ans de lecture, de réflexion, de maturation, enfin de lire de livres, des commandes. Et je me suis dit, écoute, si tu veux résumer Thérèse d'Avila en quelques mots, c'est pas compliqué, tu regardes ta main et tu mets un mot sur chaque doigt, vous l'avez dit, je le répétais pas, mais fais de Jésus ton ami, voilà. Et donc c'est venu comme ça spontanément. Et en regardant ma main, j'ai essayé de faire une comparaison entre ces mots et ces doigts. Et chaque doigt a un sens particulier, une fonction particulière, et donc c'est ça qu'il faut développer. Sans oublier la paume de la main dans laquelle il y a un M, et qui est le M de Marie, et par qui tout passe.
Et par qui on finira l'émission.
Le premier, on peut commencer par
le, commençons le premier. Donc le premier, le pouce, donc, c'est, vous dites, c'est la volonté. Alors décrivez-nous le doigt d'abord.
Alors le pouce, quand vous regardez votre pouce, quand vous regardez votre main, quand vous observez votre pouce, vous voyez qu'il a beaucoup plus de latitude que les autres doigts. Il est dans tous les sens. Il peut se mettre sous les autres, mais il ne peut pas se mettre par-dessus les autres. Mais il est vraiment dans tous les sens. Et voyez bien que si vous voulez prendre une bouteille, sans le pouce, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas possible. Mais par contre, si vous n'avez pas les quatre doigts et que vous n'ayez que le pouce, vous ne pouvez strictement rien faire.
Donc
pas grand-chose.
Donc c'est le signe un peu de l'homme libre.
C'est le signe de votre personnalité. C'est vous. Le pouce, c'est vous. C'est vous, c'est votre volonté. Je disais tout à l'heure que si vous n'ouvrez pas la porte, Jésus ne rentre pas. Et si vous ne décidez pas de vous mettre en oraison, de dire, voilà, moi, ma promesse, c'est de dire, je veux venir à Villa en vélo. Finalement, j'ai compris qu'il valait mieux que je fasse oraison et que je fasse plutôt des œuvres. Des œuvres, mes sœurs, des œuvres, sinon vos prières ne servent de rien, dit Thérèse. Non, moi, je l'ai pris à la lettre. J'ai dit, bon, mais d'accord, Thérèse, alors comment je fais? Qu'est-ce que je fais?
Alors, Thérèse, donc, je rappelle, c'est pouce. Thérèse d'Avila. Hein, pour
voilà, ça, c'est Thérèse d'Avila, oui. Et elle parle 12% de livres. Je la fais parler, en fait. Et comme on dit que c'est une personne très, très difficile à lire, non, moi, j'ai voulu dire les choses simples. Alors, et elle dit, il faut avoir une détermination déterminée. Una muy grande détermination déterminada, en espagnol. Très grande détermination déterminée, mot à mot. Donc ça veut dire que ce n'est pas une détermination, c'est une détermination déterminée.
Vous avez une image pour ça. Dans votre livre, en tout cas, vous l'utilisez. Vous dites, on peut dire à un de ses familiers, ou en tout cas quand vous essayez de vous adresser à une personne qui a du mal à se lancer dans la prière, et si le pape François passait dans le coin, racontez-nous cette petite histoire.
Oui, alors ça, c'est un jour, au Nécule d'Oraison, c'est classique, une dame me dit, oui, mais tu sais, moi j'ai bien envie de faire oraison, mais je ne sais pas comment m'y prendre, et puis j'ai pas le temps. Mère de famille, deux enfants, du boulot.
L'oraison, c'est prendre un temps de prière personnel, c'est tout.
L'oraison, c'est prendre un temps de prière.
Je le précise,
et il faut pas se mettre plus haut que ce qu'on peut. C'est en fonction de sa possibilité. Moi, c'est demi-heure, parce qu'au Carmel, c'est demi-heure, les Carmels séculiers, c'est demi-heure, mais on peut commencer par 10 minutes. 5 minutes, à mon avis, c'est un peu court, mais 10 minutes, attendez, vous coupez la pub pendant 10 minutes à la télé, et c'est bon, vous avez vos 10 minutes.
Alors, hein. filez voilà. l'image jusqu'où vous voulez.
Alors, l'image, donc, c'est tout le temps, me dit, mais j'ai envie, donc c'est le désir, si vous voulez, mais il faut passer du désir à la volonté. Et donc, mais si le pape François vient dans ta paroisse et que ton curé t'appelle, tu viens. Ah oui, je trouverai bien 5 minutes. Ah ben d'accord. Mais finalement, tu reçois un SMS en disant, un SMS un peu surnaturel, qui dit non, le pape ne vient pas. Finalement, c'est Jésus qui vient. Et donc, moi, je te dis, eh ben écoute, tu n'as pas pris le temps, donc tu viens pas. C'est pas grave, puisque t'as pas voulu prendre le temps.
Tu le verras pas.
Jésus,
c'est pas grave.
Jésus viendra dans ta paroisse, mais toi, tu n'y seras pas. Tu resteras chez toi. Et voilà, c'est ça. Donc, si vous voulez, non, c'est vraiment le désir, il faut le transformer en volonté. Et la volonté, c'est à un moment donné, allez, je m'y mets, je prends un moment, à telle heure je commence, à telle heure je finis, et je m'y mets, je me mets à l'écart, tout seul. Voilà, on verra la définition de l'oraison tout à l'heure. Mais c'est un entretien seul à seul avec celui dont on se sent aimé, dont on se sait aimé, pardon. Et donc, seul à seul, un entretien fréquent, donc tous les jours, Tous les jours, ça ne vous interdit pas de le faire, de penser, d'avoir en voiture ou dans la rue ou pendant que vous faites la cuisine.
Non, c'est d'avoir un temps privilégié. Jésus.
Là, non. L'oraison, c'est je me mets à part pour lui. Voilà, j'ai un rendez-vous d'amitié avec mon ami Jésus. Et là, je me mets à part pour lui.
Alors, Thérèse d'Avila, donc, vous le dites, vous la citez au long de cet ouvrage parce que vous avez une amitié étonnante avec elle, hein, qui est de longue date. Vous dites que vous vous adressez à elle, comme on s'adresse à un ami, on y reviendra. En tout cas, dans cette première partie, là, pour le pouce, donc, fait, on va dire, l'homme libre qui se détermine pour Dieu à vous lire, vous dites qu'elle a souvent une image, donc elle dit que le monde est en feu. Est-ce que vous pouvez expliciter cette image et puis l'écho que ça trouve dans votre bouche? On lit la chose suivante: aujourd'hui c'est peut-être pire car le monde est en très grande majorité en sommeil spirituel et se laisse entraîner pendant ce sommeil dans ses rêves d'idoles en tout genre. Le monde est en feu, qu'est-ce que c'est?
Alors, Thérèse a dit que le monde était en feu parce qu'à ce moment-là, c'était le début du protestantisme et elle pensait qu'il y avait de l'hérésie partout. Aujourd'hui, il n'y a pas d'hérésie. C'est ce que j'ai dit. Il y a de l'indifférence, de la méconnaissance. Les gens, ils vivent leur vie humaine sans vie spirituelle. Et c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, dans nos radios, les gens sont chercheurs de sens, mais ils ne vont pas jusqu'à essayer de découvrir qu'est-ce que c'est que, qui est Jésus, qu'est-ce que la foi. Jusqu'à cette démarche spirituelle. Et donc on s'endort, et quand on s'endort, qu'est-ce qu'on fait? On rêve quoi? D'idoles. Alors le sport, le showbiz, enfin tout ce que vous voudrez, quoi. La détente, enfin, la vie c'est normal, moi je me passionne pour le sport. Vous savez, j'ai regardé France hier soir, France-Albanie, il n'y a pas de problème. Donc ça ne m'interdit pas de regarder le sport, mais j'ai fait Horizon avant. J'ai fait Horizon avant, parce que je savais qu'après je serais fatigué, que je viendrais demain à la radio, donc en fin d'après-midi je me suis débrouillé pour prendre mon temps. Ça veut dire que le foot n'est pas le plus important de mon après-midi, le plus important de mon après-midi c'est mon entretien avec Jésus.
Alors on passe au deuxième doigt, donc on était sur le pouce, on arrive sur l'index, fait 2, vous dites c'est l'identité et le témoignage, d'ailleurs vous avez une phrase qui peut expliciter ça, vous dites l'index c'est ce doigt pointé qui nous sert à indiquer la direction vers laquelle nous voulons entraîner ceux qui sont autour de nous. Qu'est-ce que vous voulez développer dans cette idée de l'index?
Alors, ça indique la direction, mais ça indique l'identité. Quand vous êtes à l'école, comme vous appelle Bernard, moi je lève le doigt, je lève l'index en disant c'est moi. Voilà, donc qui suis-je? Et Thérèse insiste beaucoup sur la connaissance de soi. Qui suis-je et comment je fonctionne? C'était très important. Mais aussi, qui est Dieu? Puisque le prophète Élie, qui est le père spirituel du Carmel, dit « Il est vivant le Dieu devant qui je me tiens ». Donc c'est vraiment deux personnes face à face. Il est vivant le Dieu devant qui je me tiens, mais moi aussi je suis vivant. Et donc qui est Dieu, qui je suis? Voilà. Et donc il est très important de se situer. Et pour moi, Jésus est un ami, donc mon ami, et je le considère comme mon ami humain, parce qu'on le verra tout à l'heure, mais il a pris mon humanité. C'est pour ça qu'il est mon ami, mais il est aussi mon Dieu. Et je ne me trompe pas. Et je sais, et Thérèse insiste beaucoup là-dessus, je sais qui il est et je sais qui je suis. Et j'ai un rapport avec lui d'homme à homme et de homme à Dieu, les deux. Il est à la fois homme et Dieu. Et il m'amène au Père et il m'envoie l'Esprit. On est bien d'accord, c'est la Trinité, on est bien d'accord. Mais moi je suis homme, je ne suis pas grand-chose devant lui. Et je me fais humble et il m'entraîne vers cette divinité. Et je pense, et c'est ça qui me... Et je définis dans ce chapitre-là, je définis la croix. Pourquoi la verticalité? Pourquoi l'horizontalité?
Alors justement, j'allais y venir. On a l'impression aussi à vous lire, vous dites que c'est deux, c'est aussi donc, vous dites c'est l'identité. La première identité du chrétien, c'est celle de la croix. Et donc se décider pour la prière, c'est aussi une manière d'affirmer cette identité, ou en tout cas de la faire vraiment sienne, cette identité de la croix. Est-ce que vous pourriez la préciser?
Alors, moi, un prêtre nous dit la croix, c'est la foi verticale et horizontale. Et bon, voilà, l'idée est partie comme ça. Et c'est souvent comme ça que j'essaie de développer. Et la verticalité, c'est quoi? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, etc. Donc, ça veut dire que Jésus nous entraîne vers Dieu, d'accord? Mais Dieu nous dit, je vous ai choisi en premier, c'est moi qui vous ai choisi. Donc, c'est vraiment la verticalité, la relation entre l'homme et Dieu, verticale et descendante, montante et descendante. Puisque moi, je me tourne vers mon Dieu et lui m'a choisi en premier, d'accord? Mais qui est au milieu? C'est Jésus. Personne ne va au Père sans passer par moi. Qui me voit le Père. Donc vraiment, Jésus est au milieu, on est bien d'accord. Mais l'horizontalité, vous voyez, ça m'échappe. Jésus, il dit, aimez-vous les uns les autres. Ça veut dire, lorsque deux ou trois prient, je suis au milieu d'eux. Donc, se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire que c'est lui qui nous réunit. Pourquoi je suis là aujourd'hui pour vous parler de Jésus? On est bien d'accord. C'est ça. Qui c'est qui nous réunit aujourd'hui? C'est Jésus, donc il fait bien l'horizontalité. Il fait bien le lien entre les hommes. Mais ici, il est le lien, c'est lui qui est au centre, on est bien d'accord. Et donc, dans la croix, vous voyez bien qu'il est toujours vertical et horizontal, toujours au milieu. Et d'ailleurs, physiquement, sur la croix, il est au milieu.
Donc, fait de Jésus, avant qu'on fasse une deuxième pause, donc troisième doigt, on arrive donc au majeur. Vous dites que c'est souligner l'humanité de Jésus. Alors, vous avez une image, vous dites que le plus naturellement, le pouce, c'est sur le majeur qu'il vient de se déposer. Expliquez-nous cette image pour commencer.
Si vous rapprochez vos cinq doigts les uns contre les autres rapidement, vous voyez bien que le pouce va directement sur le majeur. Il touche les autres en même temps, mais il est en face, le majeur. Et donc, vous êtes toujours face à Jésus. Voilà. Et Jésus, c'est le majeur, bien sûr, c'est le plus important. Et Thérèse dit, l'humanité du Christ est absolument incontournable. Et elle s'est heurtée avec des théologiens. Elle n'avait pas de formation. Elle n'avait que de l'intuition, que l'Esprit-Saint. Et donc, eux, ils disaient, mais voilà, il faut...
Elle les appelait les lettrés.
Les lettrados. Voilà. Donc, les lettrés, parce qu'ils ont beaucoup étudié, alors qu'elle n'avait pas de formation. Elle a beaucoup lu, mais elle n'a pas été à l'école, enfin, très peu, et donc, elle n'a pas fait de formation particulière. Et elle dit, mais je ne peux pas avoir accès à Dieu sans l'humanité du Christ, c'est pas possible. Voilà, je viens de vous dire qui me voit le Père, etc. Et donc, elle défend cette théorie dans le fameux chapitre 22 du livre de la vie, où elle explique que, de toute façon, on ne peut pas avoir accès à Dieu sans passer par Jésus. Et donc, moi, j'ai été très influencé par ça. C'est ce qui m'a le plus marqué chez Thérèse. C'est qu'elle est extrêmement pragmatique. Voilà. Et elle vous dit, quand vous êtes dans une pièce dans le noir, avec quelqu'un, on se voit tous les deux, là, on se voit bien. Si on ferme les volets et qu'on éteigne la lumière, moi je sais très bien que vous êtes là. Et vous savez que je suis là. Et on se parlera quand même. Avec Jésus, c'est pareil. Même si vous ne le voyez pas physiquement, il est là, il est présent. Et vous pouvez lui parler comme à un ami, comme à votre meilleur ami. La différence avec votre meilleur ami, c'est que votre meilleur ami, il n'est pas là à côté de vous en permanence, dans la même pièce que vous en permanence. Tandis que Jésus, 365 jours, 24 heures sur 24, mieux que les pubs, il est là tout le temps. Moi, si je me réveille à 3 heures du matin, ma première pensée, c'est Jésus.
Alors, vous dites dans votre livre quand même que vous n'avez pas trouvé ça si évident que ça, qu'un jour vous en êtes confié à un prêtre. Qu'est-ce que vous diriez pour ceux qui se sont déjà un peu lancés dans la prière ou qui tâtonnent et qui, quand ils ferment les yeux, ont du mal à poser cet acte de foi dans la présence de Jésus? Voilà, dans votre livre, votre livre est plein d'une flamme. Vous dites vous-même que vous êtes surpris par votre ardeur. Hein. Vous citez le prophète Élie, comme vous l'avez fait tout à l'heure. Il est vivant, le Dieu devant qui je me tiens. Mais pour ceux qui rament un peu, j'ai envie de dire de manière triviale.
Et Jésus, je vous coupe.
Qu'est-ce que vous pouvez dire pour l'encourager?
Élie dit aussi la deuxième phrase, qui sont les deux phrases du blason du Carmel. Je brûle de zèle pour mon Seigneur. Ça veut dire que je ne me contente pas de le regarder. Je veux le servir.
Alors, pour ceux qui ont un petit peu de mal, comme vous, ça a été parfois, quand vous avez partagé comme ça votre difficulté à persévérer dans la prière, qu'est-ce que vous diriez?
Persévérance. Pour plagier Thérèse. Au début... Parce que je décris ça dans les quatre façons d'arroser le jardin. C'est Thérèse qui le dit, hein. Moi je prends ça, son image. Il y a quatre façons d'arroser le jardin. La première fois, vous prenez un seau, vous allez au fond du puits et puis c'est dur, il faut remonter le seau. Ensuite vous faites avec une pompe à chapelet, il y a un peu plus d'eau. Sinon après vous prenez un canal que vous déviez, un ruisseau, et vous amenez l'eau dans votre champ, ou bien alors il pleut. Eh bien la prière c'est exactement la même chose. Au début, c'est difficile. Il faut mettre son seau au fond du puits. Des fois, il n'y a pas trop d'eau. Il faut remonter. Et donc, votre prière est difficile, très compliquée. Et il faut s'y mettre. Et c'est pour ça que la volonté est importante. Mais une fois que vous vous y mettez, que vous vous y tenez, parce qu'il faut s'y tenir, à ce moment-là, Jésus vous prend en main, Dieu vous prend en main. Et au bout d'un moment, vous n'avez plus d'efforts à faire. Et même encore moi...
Alors expliquez, vous dites qu'il y a quatre étapes.
Alors les quatre étapes, c'est ça, c'est qu'au début, il faut...
On va
chercher l'eau dans le puits, donc ça veut dire que vos prières sont difficiles. Il faut prendre ce temps. Dans la journée, c'est 10 minutes, ce quart d'heure, il faut le couper, il faut le prendre. Il faut vraiment avoir la volonté.
Deuxième étape. Deuxième étape,
C'est que c'est le avec vous savez avec un puits avec une roue d'un puits. Bon, vous avez un peu plus d'eau. Ça veut dire que là, la prière est un peu, petit peu plus facile. Quand vous mettez en prière, vous arrivez à intérioriser, à penser à Jésus, etc. Bon, mais encore, c'est pas, vous le sentez pas encore complètement, quoi. Et après, quand vous déviez un ruisseau, ça veut dire que là, vous, de temps en temps, vous sentez, c'est l'horizon de quiétude. Ça veut dire que vous sentez un peu davantage la présence de Dieu. Et puis après, quand il pleut, ça veut dire que c'est Dieu qui prend les choses en main.
Quatrième étape.
Et on ne peut pas, vous ne pouvez pas décider de faire pleuvoir et vous ne pouvez pas décider que Dieu va venir chez vous. C'est lui qui décide. Mais par contre, quand il décide et qu'il vient chez vous, je peux vous dire que là, vous avez une grâce exceptionnelle. Mais il faut du temps pour ça. Alors, il y en a, c'est en 6 mois, il y en a, c'est en 20 ans. Thérèse, ça a été en 20 ans. Moi, ça a été pareil, 22, 23 ans. Et parce que je la connaissais, je priais, mais je priais sans m'en rendre compte. Voilà.
Alors, et puis à défaut d'avoir de la pluie, on peut quand même déjà commencer à vivre dans un jardin où on entend la voix justement de ce bien-aimé qui est le vôtre. Je rappelle le titre de votre livre, on va faire une deuxième pause et puis on va aller sur les deux derniers doigts que sont donc, voilà que j'ai un trou de mémoire, aidez-moi, que sont l'annulaire et l'auriculaire. Avant de parler de la paume de la main, je rappelle le titre de votre livre, Bernard Guidès, Fais de Jésus ton ami, paru aux éditions Mediapol. Et je rappelle à nos auditeurs que nous sommes en pleine semaine de Radio Don et donc si toutes ces émissions vous nourrissent, je pense entre autres à l'émission Vivante Église, eh bien ces émissions ne se font pas sans vous. Si on est là derrière le micro avec Bernard pour parler de ce sujet un peu fou, si on a cette liberté, c'est grâce à votre soutien. Je rappelle le numéro de téléphone 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00.
À Sévrac-le-Château, 102.3.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Faire de Jésus son ami, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, cette semaine de Radio Don. On commence par, on va dire, le cœur de cible, ou en tout cas le cœur de notre mission, avec vous Bernard Guidès, auteur d'un livre presque du même nom, Fais de Jésus ton ami, paru aux éditions Mediapol. Alors je le rappelle pour ceux qui nous rejoindraient, vous êtes agriculteur dans le Tarn, et donc l'auteur de ce livre, et vous nous partagez une pédagogie avec les cinq doigts, une manière de nous aider à rentrer dans la prière personnelle, dans la prière d'oraison, étape décisive. Fais de Jésus ton ami sur les cinq doigts. Vous mettez cinq mots qui permettent de rentrer et de comprendre cette prière. J'aimerais juste, avant qu'on aille un peu plus loin, qu'on s'arrête donc maintenant sur l'annulaire. Vous dites que c'est l'alliance, le lien. Vous animez aussi des écoles d'oraison, parce que vous, depuis que vous avez découvert l'oraison, vous avancez comme une comète, hein. Ça fait partie de votre tempérament d'être fonceur aussi. Qu'est-ce que vous diriez à tous ceux qui, dans le fond, depuis des années, n'arrivent pas à passer le cap de la prière personnelle? Qu'est-ce que ça change?
Alors, ça change beaucoup de choses. Bon, on est marqué par son caractère. Moi, je suis un peu colérique, un peu égoïste, enfin, comme tout le monde, si vous voulez. Bon, voilà, enfin, comme tout le monde, oui. Et donc, il m'arrive parfois de ne pas faire assez attention aux autres. Eh bien, l'oraison vous corrige les défauts. Parce que quand vous... Enfin, moi, je passe 2 heures tous les jours. Des fois, un petit peu plus la nuit. Mais pendant ce temps-là, vous observez votre journée qui vient de passer, ou vos jours qui viennent de passer, et vous dites, tiens, cette personne, je l'ai vue, mais je n'ai pas fait attention à elle, j'aurais pu lui dire ça, etc. Finalement, je vais la revoir. Il y a tel malade, que j'ai entendu parler qu'il était malade, ben, je vais passer le voir, etc. Ça change votre vie, ça change votre relation aux autres, sans que vous vous en aperceviez. C'est au bout d'un moment que... Vous savez, Jésus est un gros influenceur.
C'est comme
un grand influenceur.
C'est comme la réalité augmentée, c'est ça, c'est...
Voilà. Et donc, il s'imprime en vous. Voilà. Comme Thérèse s'est imprimée en moi pour m'amener vers Jésus, Jésus aujourd'hui s'imprime en moi. Je le sens de plus en plus. Alors, on me fait encore beaucoup de reproches. Tu pourrais faire autrement. Enfin, bon, mes enfants ou mon épouse me recadrent souvent en me disant, dis donc, Thérèse ou Jésus, je te rappellerais à l'ordre s'il était là. Voilà. Ils sont là, donc eux, ils me rappellent à l'ordre. Donc, c'est ça. Ça change votre comportement.
Alors, l'annulaire, justement, l'alliance. Alors,
l'annulaire, c'est l'alliance, parce que vous êtes, c'est le peuple de Dieu. On avance tous ensemble. On n'est pas, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, c'est important. On n'est pas chrétien seul dans son coin. Et je crois qu'il est important de prier seul pour ensuite prier ensemble, tous. Et donc, moi, quand je vais à une eucharistie, quand je vais à une prière collective, je m'y sens bien. Mais il faut les deux. Et c'est complémentaire. Et donc, ce peuple de Dieu, Dieu qui dit à Abraham, allez, quitte ta patrie, va, tu verras, tu auras plus de, tu auras beaucoup de monde autour de toi, autant que d'étoiles ou autant que de grains de sable. Voilà, donc c'est ça, on est vraiment peuple de Dieu en marche. Donc ça, je crois que c'est le premier.
On consent à cette alliance, d'une certaine manière.
Voilà, on consent à cette alliance. Mais il faut entrer dans le recueillement pour l'apprécier, pour la doser, pour la vivre vraiment. Et donc, il y a à la fois la vie en église et à la fois le recueillement personnel. Il faut les deux, et vraiment, à mon avis, et j'insiste beaucoup là-dessus. Après, il y a plusieurs formes de prière, j'explique ça dans le livre, hein, c'est pas la peine de détailler ça maintenant, mais ce sont des repères, si vous voulez, voilà. Et je crois que ça, c'est important. Et puis, alors après, donc c'est vraiment le peuple de Dieu auquel on appartient. Et Thérèse, elle décrit ça, les étapes de la vie spirituelle dans le château intérieur. J'en dis 5 ou 6 pages dedans parce que c'est un monument de théologie. C'est magnifique, vraiment magnifique. Il faut du temps pour y rentrer dedans, pour le comprendre. Il vaut mieux d'ailleurs prendre des livres qui l'expliquent plutôt que le livre lui-même si vous débutez. Il y a beaucoup de livres qui l'expliquent bien.
Alors dites-nous, qu'est-ce qu'elle veut dire, de quoi vous parlez?
Alors, donc c'est le parcours spirituel. Quand on est débutant, qu'on ne connaît pas bien, qu'on ne sait pas comment avoir une relation à Dieu, comment on prie au départ, enfin bon. Et il y a tout ce parcours spirituel qui va jusqu'au mariage spirituel à la fin. On passe par les fiançailles, on passe par la rencontre.
Donc le mariage spirituel, ce que vous décriviez, c'est quand on est dans son jardin et que tout d'un coup il se met à pleuvoir, c'est ça?
Voilà. Et alors, c'est même plus que ça. Plus que ça. Et donc, au départ, si vous voulez, on rencontre quelqu'un, si vous voulez, c'est le début du château intérieur, ouais, puisque notre âme est comme un château, et on y rentre par l'oraison. Et puis, quand vous priez, ce sont les fiançailles, si vous voulez, vous commencez à découvrir Dieu, Dieu vient vous voir, ce sont les fiançailles, des relations qui s'intensifient un petit peu. Et le mariage spirituel, pour Thérèse, c'est que Dieu fait partie de votre vie complètement. Là oui, et quand il fait partie de votre vie, effectivement, là il pleut. Là, il vient arroser le jardin, si vous voulez. Et ça veut dire que dans votre vie, moi je sais pas si j'en suis là, c'est difficile à dire, c'est difficile de se juger, mais moi de plus en plus, en voiture, ça m'arrive d'avoir une prière, même fugace, pour Dieu, ou l'Esprit-Saint, ou ce matin j'ai invoqué l'Esprit-Saint avant de venir ici, en disant écoute, donne-moi les mots qu'il faut.
Alors on avance, dernier doigt, l'auriculaire, vous dites la confiance, vous finissez par la confiance. On sent que c'est comme une manière en fait de stabiliser, de pérenniser tout ce chemin. Fais de Jésus ton ami. Qu'est-ce que vous voulez nous partager sur ce sujet de la confiance? Vous avez noté beaucoup de choses.
Alors le premier paragraphe, c'est « Prier sans cesse avec l'ami de... ». Pierre répond à Jésus quand il leur dit, mais vous voulez venir avec moi, vous voulez cette aventure un peu compliquée? Et Pierre répond, à qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui les as, les paroles de la vie éternelle. Donc c'est ça, c'est vraiment être, vraiment vouloir faire partie de l'équipe de Jésus. Voilà, et puis pas remplaçant, hein, vraiment, faire partie de l'équipe en totalité. Et puis... prier de plus en plus, parce que, mais dans la vie, Thérèse, elle dit, Dieu est au fond des casseroles. Voilà, mon épouse a été très sensible à cette phrase, parce que dans votre vie au quotidien, Jésus est avec vous, Dieu est avec vous. Et appelez le Saint-Esprit, allez-y, demandez-lui, vous verrez. Et si vous appelez l'Esprit-Saint, vous allez voir, il va vous répondre. Il ne vous répond pas, vous n'entendez pas des voix dans votre oreille, hein, c'est pas ça. Hein. Thérèse les entendait, mais pas nous. Ça veut dire qu'il y a des gens autour de vous qui vont vous dire une phrase comme ça, au hasard, et puis vous dites, ah tiens, cette phrase, mais j'ai demandé ça à Jésus, mais voilà ma réponse. Voilà, donc ce sont les gens qui sont autour de vous. Et l'amitié de Jésus vraiment transforme la vie. Et là où c'est important, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, mais je l'ai dit rapidement, mais je le redis, prier c'est bien, mais il faut avoir des œuvres. Et moi, quand je vois la vie active que je mène, que j'ai menée, et puis que je mène aujourd'hui, parce qu'elle est différente, mais elle est aujourd'hui quasiment... Quand je vois mes copains avec qui j'étais en responsabilité agricole, ils me disent « Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu dois t'ennuyer ?» Je dis « Non, je suis allé pour l'église à 100% pratiquement. À part ma famille, l'église à 100%. Je suis engagé dans ma paroisse, au catéchuménat, la radio, etc. Dans un foyer de charité, je vais aider, je vais servir. » Ils me disent « Mais enfin, c'est pas possible, comment ça se fait ça ?» Ben, je dis « Oui, voilà, toute la vie, c'est ça. » Et donc... Donc je suis dans les œuvres, vraiment, et Thérèse vous dit, mais... Et donc c'est ça la réponse à ma promesse de Thérèse. J'ai pas été à Avila en vélo, parce que je sentais qu'elle me disait, mais attends, tu vas pas t'amuser à ces imbécilités-là. Enfin, sers-moi, sers Jésus, je demande de servir Jésus. C'est ça, aller à Avila en vélo, pour moi. Donc c'est servir Thérèse. Et puis, alors...
Alors juste, Bernard, finalement, j'aimerais qu'on...
Et agrandir le cercle, je crois que c'est important, par l'enthousiasme et l'émerveillement, parce que si nous sommes des disciples... Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Et c'est par notre comportement qu'on est disciples. C'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre en disant, voilà, modestement, je vous envoie un petit signal, vous faites ce que vous voulez, vous le lisez pas, vous faites ce que vous voulez. Moi, le livre ne m'appartient plus. Moi, je l'ai écrit, j'ai dit à Jésus, voilà, moi je veux te servir. Je l'ai servi, c'est lui qui sait qui va lire. Et c'est lui qui sait... Comment ça va toucher les cœurs? Moi, non. Terminé. Moi, j'ai écrit, c'est bon, c'est fini, c'est terminé.
Bernard,
ça
ne m'appartient plus. Pour finir, j'aimerais qu'on rebondisse sur une phrase de Marthe Robin. Ta vie vaudra ce que vaut ton oraison. Comment vous la comprenez et comment vous pourriez l'expliciter, cette phrase qui peut paraître rude, hein? Ta vie vaudra ce que vaut ton oraison.
Ça veut dire que si vous entrez en oraison, si vous entrez en relation avec Dieu, il va changer votre vie, on vient de le dire, et c'est ça. Et c'est pour ça que votre vie sera complètement marquée parce que vous allez recevoir la grâce que vous allez recevoir en prière. Et cette grâce que vous allez recevoir, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Elle va agir à vous presque à votre insu. À un moment donné, vous allez comprendre que c'est Dieu qui vous habite. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et Thérèse conclut derrière, « Dieu enrichit toujours l'âme qu'il visite ». C'est la phrase qui suit derrière et que je cite, au cas où vous l'auriez oublié, vous ne l'auriez pas vu. Je sais que vous l'avez vu,
oui.
Voilà, donc ta vie vaudra ce que vaut ton oraison. Ça veut dire que laisse pleuvoir, ne mets pas ton parapluie. Ne mets pas ton parapluie, laisse-toi mouiller.
Eh ben, merci beaucoup Bernard Guidez d'être venu ce matin au micro de Vivante Église, d'avoir fait ce trajet courageusement. Vous,
ah non,
je le rappelle,
Marie.
Vous, oui, ben, et Marie, on va dire qu'on fera une autre émission parce que l'émission touche à sa fin. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre « Fais de Jésus ton ami » paru aux éditions Mediapol avec ce sous-titre « La prière d'oraison expliquée tout simplement ». Et vous êtes aussi par ailleurs donc président de RCF en Pays Tarnais. On le redit, l'importance. Allez, dans les 30 secondes qui nous restent, redites-nous pourquoi il faut donner à nos radios chrétiennes.
Alors, parce que c'est une nourriture spirituelle. Voilà, je ne dirais pas plus que ça. C'est une nourriture spirituelle et que, vous voyez la discussion qu'on a eue ce matin, on allait sur une autre radio.
Pour une fois, je vais prendre un petit peu position. J'ai reçu bien des invités dans cette émission depuis que j'en ai la responsabilité. J'entame donc ma cinquième saison. Et j'ai souvenir d'un frère Carme qui disait qu'en fait, toutes les grandes transformations sociales et politiques commencent toujours par une révolution mystique, d'où l'importance probablement de ces radios qui creusent un profond sillon aux quatre coins de la France et en tout cas dans notre région, dans le sud-ouest, un sillon qui peut avoir de grandes répercussions. Merci beaucoup Bernard Guidès. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h. Vous la retrouvez en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.